Bananoid est un freeware pour PC sorti en 1989. Il utilise les possibilités des cartes vidéo VGA, alors à peine balbutiantes, encore très coûteuses et surtout incompatibles entre elles. Un PC compatible. Là, à l'époque, le PC était surtout prévu pour la bureautique avec un haut-parleur capable d'émettre un simple bip, équipé d'une carte vidéo CGA, au mieux 640x200 en deux couleurs, et d'un clavier. La souris est un luxe dans l'environnement très convivial du MS-DOS. Et pour être franc, les groupes de Demo Maker offraient alors des productions et des jeux bien mieux terminés sur Amiga et Atari ST, alors que le PC ne connaît que de rares équipes qui souffrent à sortir des productions vu la manque de cohérence dans cet écosystème. Résultat, Bananoid a des couleurs flashy, des formes mal définies, fait souvent saigner des yeux et les oreilles se croient revenus 7 ans en arrière. Bananoid utilise le mode vidéo MCGA, usuellement 320x200, 256 couleurs, ici bricolé pour afficher du 360x240, avec une astuce de registre qui permet le scroll matériel par offset. Une technique jusqu'ici connue que sur les ordinateurs familiaux comme l'Atari ST et l'Amiga, avec les avantages du mode chunky, c'est-à-dire qu'un pixel est codé sur un octet, par rapport au planar où un pixel est un bit d'octet sur plusieurs plans de couleurs, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire décaler horizontalement si on n'a pas des circuits vidéo spécialisés. La taille horizontale de la zone de jeu est de 544 pixels, excusez-moi, et elle est plus grande d'environ une fois et demie ce qui est représenté à l'écran, 360 pixels. La section d'écran affichée suit les mouvements de la batte au joueur de ne jamais perdre de vue trop longtemps la balle. Mais difficile dans un jeu conçu comme démonstration par un développeur dans un graphisme très peu agréable. À part ce mouvement d'image, le jeu n'a strictement aucune originalité, ni aucune beauté d'ailleurs, mais il démontre qu'on pouvait développer des jeux colorés avec des effets dignes de chipsets spécialisés des ordinateurs 1632 familiaux sur des machines qui valaient... un IBM PC, c'était largement plus cher, quoi. Dès ce moment, le portage de jeux 1632 commençait enfin à être comparable sur la plateforme PC compatible, sous réserve de posséder une configuration au prix rédhibitoire, d'avoir la carte vidéo et la carte son exactement identiques aux développeurs et de ne pas s'être énervé à coups de pied sur des drivers absolument anarchiques et incompatibles. À tel point que ce casse-brique est encore intentionnellement conçu pour être jouable au clavier, puisque la souris n'est toujours pas obligatoire sur plateforme PC, ni même d'une gestion unifiée. C'est un peu comme si aujourd'hui on devait faire un jeu pour plein de téléphones portables, genre Samsung, Nokia, BlackBerry, et qui ont chacun des touches différentes, une résolution différente, etc. Alors qu'à côté, on a deux, trois écosystèmes avec des caractéristiques unifiées et un parc important de machines. Et là, on parle de l'iPhone, de la Nintendo DS et de la PSP. Bon, maintenant, vous devriez mieux comprendre pourquoi il y a tellement moins de jeux en dehors de cet écosystème. Et l'inconvénient, c'est que quand cet écosystème commence à s'essouffler de par sa fermeture, et pas que le manque d'évolution matérielle. Nintendo avait souffert à son époque de son emprise sur les éditeurs. Que la concurrence commence à s'unifier, que les outils d'abstraction de code commencent à poindre sur PC. L'évolution donc des compatibles PC, la popularisation de la carte vidéo VGA, toujours en mode MCGA, et de la carte son Sound Blaster et de sa prise joystick associée, font que les équipes mythiques, telles que les Bitmap Brothers et les Team 17, s'intéresseront au mode MS-DOS et à appliquer leur vaudou des machines chunky and clunky en voie de standardisation. En 1995, l'arrivée de Microsoft Windows, mais surtout de DirectX, donne enfin les bases d'abstraction matérielles dont avaient besoin les studios de jeux. Conformément à la loi de Moore, la puissance en cette croissante des processeurs Intel sonnera le glas de la programmation en assembleur, qui avait permis cet exploit technique, et la mort par faillite de l'Atari et de Commodore, l'éditeur de l'Amiga, fera le reste.